BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. On se retrouve comme chaque semaine avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, pour évoquer l'actu des marques et des agences, débattre des grands enjeux du monde de la pub et de la communication et partir à la rencontre des DIRCOM qui comptent. Cette semaine, on sera avec Jean-Patrick Chiquiard. C'est le cofondateur de l'agence Rosa Parks, agence qui vient d'être récompensée au Zéphy. Ce sont les prix de l'efficacité publicitaire pour sa campagne réalisée pour Monoprix. On en parlera largement. Notre face-à-face du jour sera consacré au Crystal Festival. Ça approche, hein, c'est dans 3 semaines. Que nous prépare cette édition? On en parlera avec Christian Cap, fondateur du Crystal Festival, et avec Thomas Jamet, CEO de IPG Media Brands. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, notre rencontre avec un DIRCOM cette semaine. Ce sera Stéphane Massé, responsable marketing et communication de Carax, une mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance. HebdoCom, ça commence tout de suite, comme chaque semaine, avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour Aurélie Planex.
Bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors avec vous Marie, on fait comme chaque semaine le tour de l'actualité et on commence par ce joli conte de Noël qui a été réalisé pour Intermarché.
Intermarché met le Père Noël au régime cette année. Fini les cookies et gâteaux en tout genre. Après avoir rencontré le Père Noël sur un marché et constaté son embonpoint, un petit garçon se demande s'il n'est pas trop gros pour passer par sa cheminée. Alors pour tenter de rétablir la situation, il décide de prendre les choses en main et de lui apporter des légumes tous les jours. Intermarché met ici en avant ses produits frais, bien sûr. Le film est réalisé par l'agence Romance, qui a déjà signé une publicité très remarquée pour l'enseigne en mars dernier, le spot L'Amour.
Et puis ce qui vous a interpellé aussi Marie cette semaine, ce sont ces pubs anti-tabac qui sont payées par des fabricants de cigarettes. Alors là, on est pour le coup aux États-Unis.
Des groupes comme Philip Morris ou RG Reynolds diffusent depuis une semaine des spots mettant en garde contre les dangers du tabac. Des publicités en pleine page dans le Washington Post ou le New York Times où il est écrit « Fumez-tu en moyenne 1200 Américains par jour ?» Alors ça a de quoi surprendre, mais en fait, ils se conforment à une décision de justice qui date de 2006 et qui leur ordonne de diffuser des spots pour, je cite, « corriger leurs mensonges ».
Et puis face à la polémique sur le mauvais contrôle de ces contenus, YouTube a été obligé de supprimer des vidéos de sa plateforme, Marie.
150 000 vidéos supprimées, des vidéos violentes mettant en scène des enfants, vidéos parfois accompagnées de commentaires pédophiles. À l'origine de cette polémique, un article du Times qui révèle que des publicités pour des grandes marques sont apparues sur YouTube à côté de ces vidéos polémiques. Plusieurs annonceurs comme Adidas, Lidl ou HP ont depuis suspendu leur publicité sur la plateforme.
Et puis Maserati saute le pas et confie sa com à Accenture.
Le constructeur de voitures de luxe américain Maserati choisit Accenture comme principale agence de communication. Maserati ne cherchait pas uniquement une agence de com, mais un groupe capable de gérer le marketing digital, la stratégie de marque ou encore le service client. En décrochant ce budget, le cabinet de conseil prouve qu'il est capable de concurrencer les grands groupes de pub classiques.
Frédéric Roy, c'est une date?
Oui, c'est pas non plus un coup de tonnerre terrible, mais c'est vrai que ça marque quelque chose, oui. Maserati est pas un énorme annonceur, mais le fait qu'il choisisse Accenture comme vecteur de communication principal, oui, c'est important.
Merci Marie Valogne, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Jean-Patrick Chiquiard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Rosa Parks et cette semaine, c'était les prix de l'efficacité publicitaire. Votre agence a été sacrée agence de l'année à égalité avec Proximité et BBDO. C'est quoi la clé de votre succès?
La clé du succès, c'est de sans doute réussir à trouver des idées créatives qui touchent les gens. Et finalement, de réussir à transformer, en tout cas à faire rentrer des gens dans des histoires avec des marques. Et de faire en sorte que ça crée de la préférence de marque par la suite. Donc, la clé du succès, c'est trouver quelque chose qui soit juste, qui soit pertinent pour les consommateurs, et puis surtout qui soit pas trop intrusif, parce que je crois qu'un des gros enjeux de la publicité aujourd'hui, c'est aussi de rentrer en connexion avec les gens sans leur pousser un message trop fort, trop push, trop promotionnel. Et je pense que dans les deux campagnes qui ont été récompensées au prix EFI, que ce soit Tribord d'un côté ou Monoprix de l'autre, à chaque fois on a fait passer un moment avec la marque et de façon, je pense, tendre, subtile, émotionnelle, jolie, esthétique. Ouais. Et que c'est sans doute parfois aussi simple que ça, que de réussir à transformer ces secondes ou ces moments passés avec une marque en efficacité business, parce qu'au final, les annonceurs, ils ont aussi une finalité qui va être de plus vendre. Mais c'est de trouver les moyens de le faire de façon délicate.
Voilà, Monoprix, c'est votre campagne qui a reçu le Grand Prix EFI. Que faut-il en retenir ? C'est l'édito de la semaine avec Simon Tenenbaum.
La campagne Monoprix, orchestrée par Rosa Parks, a su tirer le meilleur de la pub télé et de la pub digitale. Valeur de marque et émotion en télévision, réactivité et humour sur Internet. Rosa Parks a ainsi conçu un film publicitaire événementiel de 4 minutes pour célébrer les 85 ans de l'enseigne. Diffusé en exclusivité sur les chaînes du groupe M6, le spot capitalise sur le succès du packaging des produits de la marque distributeur de Monoprix, ces fameuses bandes colorées où s'affichent des jeux de mots. Le film, également diffusé au cinéma, montre un écolier amoureux d'une de ses camarades qui glisse dans son casier des messages découpés sur des emballages Monoprix. Mais la campagne ne s'arrête pas à ce spot. Une dizaine de fins alternatives qui jouent elles davantage sur l'humour que sur l'émotion sont publiées sur Internet avec des millions de vues à la clé. Et pour aller au-delà d'une campagne ponctuelle, Rosa Parks a aussi multiplié les initiatives au cours de l'année avec des communications à chaud, pleines d'humour sur les réseaux sociaux en fonction de l'actualité. Au moment du Festival de Cannes, en réaction au lancement par Amazon de son service de livraison à domicile ou en surfant sur la mode du jeu Pokémon Go. Et comme la pub n'est pas tout, ce dispositif s'est accompagné d'une refonte du programme de fidélité de Monoprix qui s'est traduit par une forte hausse de son nombre d'adhérents. Le retour sur investissement est au rendez-vous. Malgré une forte concurrence entre enseignes de proximité et un budget de communication 5 à 10 fois plus faible que ceux de Carrefour, Lidl ou Intermarché, Monoprix a vu ses ventes repartir à la hausse. Près de 3% de progression depuis le début de l'année. La fréquentation en magasin s'est aussi redressée. Grâce à cette campagne à la fois agile et spectaculaire, c'est aussi l'image de Monoprix qui en a profité. La marque a regagné sa place de leader sur le critère émotionnel parmi les enseignes de grande distribution devant Intermarché.
Le temps fort de cette campagne, comme disait Simon, c'était un film promotionnel de 4 minutes. C'est encore possible de faire ça aujourd'hui ?
Mais surtout, il faut le faire. Parce que si on a envie de se distinguer des autres, on est obligé de travailler sur tous les éléments qui nous permettent de changer les perceptions. Donc la réalité d'un format long, c'est une manière d'avoir plus de temps pour raconter des histoires, de permettre aux gens de rentrer davantage dedans. Et après, ça oblige obligatoirement à avoir des stratégies médias un peu innovantes aussi et d'être audacieux sur la manière de construire ses plans médias. Donc 4 minutes, c'est possible. Ça coûte pas forcément plus cher qu'une campagne classique parce qu'on l'orchestre différemment. Donc on va aller chercher moins de répétitions parce qu'on est convaincu qu'avec un format 4 minutes, on n'a pas besoin de le voir 10 fois pour être convaincu. Donc voilà, donc il faut là encore, comme on le disait, quand on a moins de moyens, il faut aussi être plus innovant, plus créatif dans les dispositifs qu'on va mettre en place.
Il y a un autre aspect de la communication Monoprix qui est particulièrement spectaculaire, c'est les packagings. Je pense que ça a d'ailleurs donné probablement, vous avez été beaucoup copié par des tas d'autres enseignes. Et le mystère sur la question que tout le monde se pose quand on voit les packagings Monoprix, c'est vous vous mettez à combien ?
C'est clair.
Pour produire ça et comment est-ce que ça se passe ? C'est quoi le processus pour ça ?
Alors déjà, on s'y met à combien ? Toute l'agence travaille quasiment sur les packagings Monoprix parce que finalement, il y a ce qu'on fait en communication, puis il y a ce qu'on fait aussi sur les packagings en eux-mêmes. On refait toutes les petites phrases que vous voyez sur les packagings en magasin sont faites à l'agence et en permanence. Donc, on a des briefs quotidiens.
Combien de phrases par
Sur les packagings, en point de vente, on en a refait plus de 2000. Veut dire que c'est 2000 briefs, c'est 2000 accroches, c'est 2000 contraintes différentes parce que quand on regarde la charte graphique de Monoprix, c'est très précis. Donc on a un nombre de caractères.
Il n'y a pas beaucoup de mots, ouais.
On a un nombre de caractères qui est lié à la taille de l'étiquette
en question. À la forme
de l'étiquette. Exactement. D'accord. Donc c'est un petit travail d'orfèvre et en même temps.
Et un client qui accepte tout, il y a les étiquettes auxquelles on a échappé, ça existe, hein.
Ah oui, il y a des étiquettes auxquelles on a échappé.
Il y a un dossier.
On garde un dossier secret, enfermé à double tour, mais on a un client qui comprend aussi la force que les packagings peuvent avoir dans la relation que la marque entretient avec ses consommateurs. Donc, ils savent jouer avec ça. À nous de respecter la promesse produit et à chaque fois de trouver le bon équilibre pour, en quelques caractères, réussir à faire sourire les gens.
Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est votre newsroom que vous avez mis en place là pour identifier les sujets forts en fait en fonction de l'actualité et réagir dans l'instant. Comment est-ce que ça fonctionne ?
En vrai, à l'agence, on fait beaucoup de social listening, on fait beaucoup d'analyse de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, d'essayer de trouver tous les topics dont les gens parlent. Parce que je pense qu'une des caractéristiques de Monoprix, à partir du moment où ils ont moins de budget média que les autres, c'est finalement de trouver les sujets sur lesquels il y a déjà une audience qui est préexistante. On a cité Pokémon, on a cité la réaction au film Amazon Go. C'est vrai que c'est très tactique, mais c'est une manière aussi de faire parler d'un sujet, puisqu'il y a déjà des gens qui en parlent dans les médias.
Et du coup, ça vous oblige à être très immédiat, contrairement à une campagne qui est pensée en amont, réalisée et mise en place.
C'est sûr que l'agilité, c'est un des maîtres mots qu'on a chez Rosa Parks, qu'on essaye de mettre en place au quotidien. Donc ça veut dire que de temps en temps, on arrête tout le monde à l'agence. Pendant 2 heures, on ne se consacre que sur ce sujet-là. Donc ça oblige à être réactif, à avoir du jeu de jambes, à prendre un sujet, voir une opportunité et tout de suite pouvoir réagir. Ça oblige aussi à avoir un client qui est capable de réagir à cette vitesse-là. Parce que là encore, si nous on est capable de le faire, force est de constater que Monoprix est aussi capable de prendre des décisions très rapides. Et je pense que c'est ce couple-là qui fait l'agilité de cette marque, parce que c'est ce que les gens perçoivent au quotidien.
Et ça peut marcher avec tous les clients ? Ou c'est possible de faire ce genre d'action extrêmement rapide, simultanément, avec plusieurs clients ? Alors il faut une agence énorme.
Je crois que les clients vont être condamnés à se mettre dans ce système-là, parce que le monde autour d'eux évolue à toute vitesse, le fil Twitter change à chaque seconde et les nouveaux sujets apparaissent en permanence. Alors si les agences sont pas capables de se réinventer pour remettre en cause les schémas traditionnels, ils vont avoir du mal à suivre ce qui fait l'actualité des gens. Donc oui, les clients sont conscients de ça. Certains mettent peut-être un peu de temps à pouvoir mettre en place des processus de décision qui leur permettent d'aller à cette rapidité-là. Mais en tout cas, nous, on est en permanence en train de leur proposer des actions, un sujet, un événement sur lequel la marque pourrait trouver sa manière à elle de traduire son propos et de trouver une promesse intéressante pour les gens.
Dans un très bon magazine qui s'appelle CB News, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Eh bien, il y a Mercedes Serra, la patronne de BETC, qui disait ce mois-ci que finalement la publicité ne devait pas être une fin en soi, mais qu'elle devait contribuer à booster la performance des entreprises. C'est ce que vous avez fait avec Monoprix ?
C'est ce qu'on a fait avec Monoprix, oui, parce que là encore, quand on est confronté à une concurrence en centre-ville qui s'est développée à outrance ces dernières années, quand on est avec des moyens, j'ai presque envie de dire médias moindres, il est clair que quand on fait une campagne, un dispositif comme celui qu'on a mené toute cette année sur Monoprix, en essayant d'être tactique, de rebondir sur des événements, de profiter des 85 ans de l'enseigne pour faire une grande prise de parole, ça permet après de construire des succès pour l'entreprise. Et les succès pour Monoprix sont pas neutres, parce que quand on regarde les chiffres qui ont été récompensés au prix IFI, c'est du recrutement de nouveaux clients, c'est des porteurs de cartes de fidélité qui se développent, c'est des résultats de vente les premiers jours de l'opération qui sont presque équivalents à un jour de solde. Donc c'est une vraie efficacité d'une campagne, et pourtant souvent sans avoir un message qui soit trop promotionnel. Donc je pense que la magie, c'est de réussir à croiser de la créativité avec de l'efficacité, et que c'est ça qui est un peu le combo gagnant, en tout cas sur la problématique de Monoprix.
Merci Jean-Patrick Chiquard, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Rosa Parks.
Merci à vous.
BFM Business, Hebdo.com, le face à face.
Le face-à-face du jour autour des festivals de créativité, avec la 17e édition du Crystal Festival qui va se tenir à Courchevel du 13 au 16 décembre prochain. On en parle avec Christian Cap, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du Crystal Festival, et Thomas Jamet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO de IPG Media Brands. Dites-moi, Christian Cap, après les critiques qui ont entouré notamment les Lions de Cannes, est-ce que ça a été plus difficile pour vous cette année de monter le festival ? Est-ce qu'il a fallu réajuster, repenser certaines choses ?
Alors, les critiques sont toujours bonnes, surtout quand elles émanent des clients. Donc, de ce point de vue-là, nous avons écouté avec tout ce qui était commenté sur le marché, sachant que le festival, nous, est centré sur les marques. Et l'intérêt de venir au Crystal Festival est centré sur la création et les marques et la rencontre avec les marques. Donc, on est un petit peu en dehors de ce brouhaha général qui ne touche pas directement le Crystal Festival.
Et vous avez quand même, j'ai vu, 3200 cas inscrits en compétition.
Oui, alors par rapport à il y a 17 ans, nous en avions 216 quand nous avons créé cet événement. Et maintenant, ça s'est élargi à l'échelle mondiale avec plus de 60% de créations qui viennent des 5 continents.
Frédéric.
Un festival, c'est pas juste... le festival, en tout cas, Cristal, c'est pas juste des remises de prix, des compétitions. C'est aussi des gens, du networking. Je crois que vous avez mis plus cette année, encore plus que tous les ans, l'accent là-dessus.
Alors le principe, nous avons centré principalement un programme in autour des marques qui vont assister à des speed pitching, des pitch des innovateurs en réalité virtuelle, intelligence artificielle, objets connectés. Le lendemain matin, nous avons le grand jury des annonceurs qui se fait débriefer par tous les présidents de jury et l'après-midi, il y a des one-to-one. Et chaque soir, nous avons des conférences autour du thème de l'audace.
L'audace.
C'est votre thème cette année.
Oui, le principe étant que l'audace stimule la création, l'innovation, crée le bonheur, aspire à la croissance, à la prospérité. C'est un moteur extraordinaire. Et il a trouvé d'ailleurs son inspiration dans l'actualité récente qui a pu marquer, on va dire, d'une certaine décision de se présenter aux élections jusqu'à l'élection donnée. L'audace, c'est dire on crée quelque chose, on envisage un projet et puis à un moment donné... Paf, ça marche, on a un peu de chance, on l'a bien pensé, mais on a réussi. Et c'est un peu la réalité de l'entreprise et de chaque produit qui est créé pour être vendu.
Donc vous le disiez, il y a beaucoup de networking, hein, Frédéric. Et donc il y a 6 séminaires, je crois, parmi lesquels un séminaire autour du brand content. Thomas Jamais, rappelez-nous ce que c'est que le brand content.
Alors, c'est une vaste question. Le brand content, c'est pour moi tout ce qui rapproche une marque d'un client, mais pas pris comme une cible sur laquelle on va jeter une sorte de fléchette et qu'on va toucher comme ça de manière un petit peu mécanique, mais avec lequel on crée une relation, à qui on raconte une histoire. Donc en fait, c'est un annonceur qui va se mettre à disposition différemment et pas être uniquement sur un levier promotionnel, mais créer un lien, créer une histoire, créer une sorte de rapport différent, peut-être plus qualitatif, et sur lequel je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France notamment.
Mais comment vous allez...
C'est pour ça que, à l'occasion de ce Cristal Festival, et je remercie Christian de son invitation, de cette possibilité, je vais annoncer le lancement de la BCMA.
Donc la BCMA, la BCMA.
Alors, ça s'appelle la Branded Content Marketing Association. C'est une association qui existe depuis 15 ans, qui est née en Angleterre, qui a 15 ans en fait à rassembler les spécialistes de la production et les gens du monde de l'entertainment, la musique, du sport et d'autres univers, et qui petit à petit s'est imposée dans le monde comme l'association de référence, de débat sur ce qu'on appelle le brand content ou le branded content et qui va nous permettre en France d'être une sorte de support d'expression, support de rencontre pour tous ceux qui sont amoureux et passionnés de communication et qui essayent d'y voir autre chose qu'une guerre de chapelle. Donc l'idée, ça va être de se dire d'arrêter de se poser les questions de est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est du média, est-ce que c'est des RP, est-ce que c'est du digital, est-ce que c'est du native advertising, et peu importe, l'idée c'est de rassembler tous ceux qui ont envie d'apprendre et de profiter de cette association auquel j'appelle tous les professionnels à me rejoindre. Donc l'idée c'est d'appeler les gens qui sont dans les industries créatives, en agence de création, en agence média bien évidemment, en tant que vice-président de l'UDECAM, on portera cette parole fortement auprès du marché de notre industrie, mais également l'industrie de la production, l'industrie de l'entertainment, du sport, de la musique, les annonceurs et tous ceux qui sont passionnés par cette thématique. Et l'idée c'est de fournir une plateforme d'échange, de partager des cas au niveau international. On existe dans le monde entier. La France est un pays qui se lance, mais après beaucoup d'autres. On est présent aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Angleterre, bien évidemment, en Asie, au Moyen-Orient. Donc de partager les meilleurs cas internationaux, d'essayer de définir aussi la question de l'efficacité. Et je pense qu'on regarde
c'est
un petit peu...
thème du jour.
Je pense qu'on regarde un petit peu trop toujours notre nombril franco-français. Et je pense que c'est intéressant de voir comment, dans d'autres pays, on a résolu finalement cette question de l'efficacité du brand content, même si c'est un petit peu compliqué d'y répondre de manière uniforme. Il n'y aura jamais de GRP du brand content parce que c'est un ensemble de solutions. Mais en tout cas, essayer de voir comment, de manière collaborative, et donc avec cette association qui va se lancer en début d'année, on peut essayer de répondre à toutes ces questions et notamment peut-être également de voir comment cette industrie peut se fédérer à nouveau. On en parle un peu moins de brand content, même s'il y a des prix qui existent.
Ça a été quelque chose. Plus à la mode que maintenant. Oui.
Moi, j'ai effectivement porté toute cette dynamique pendant des années dans un autre groupe que celui que je préside aujourd'hui. Mais je pense que c'est le moment d'en reparler, parce que je ressens l'envie des annonceurs, de nos grands annonceurs chez IPG Media Brand, par exemple, de se remettre à faire des plateformes différentes. On a beaucoup parlé de ROI, beaucoup parlé d'efficacité, etc. Mmh. Ce qui est évidemment formidable, mais comment aujourd'hui lier cette efficacité, ce retour sur investissement, cette volonté de performance qui est absolument naturelle pour les marques, mais en y ajoutant du storytelling, en y ajoutant une histoire différente. Et je pense qu'à l'heure où on va de plus en plus devoir en fait avoir des choix limités quand vous poserez des questions, par exemple à une Google Home, quand vous demanderez si vous voulez acheter tel ou tel produit, on va vous donner 3 choix au lieu d'une 20aine. Ouais. La puissance de la marque est absolument essentielle. Donc il faut qu'on retravaille les marques, essayer de recréer cette espèce de part de cœur.
Et ça va dans votre sens, ça, retravailler les marques, Christian Cap.
Ah oui, puis ça permet de développer les échanges et vraiment de performer et de mettre en avant tous ceux qui veulent permettre de créer du rêve pour les marques pour investir plus.
Frédéric.
Alors, cela dit, on voit aussi que le monde de la communication se complexifie parce qu'il y a le brand content à l'intérieur duquel, d'ailleurs, on pourrait trouver. Enfin, j'imagine que le BCMA s'en emparera, mais il y a des tas de pratiques, de catégories, etc. Le résultat pour vous, Christian, c'est que il y a beaucoup de catégories. C'est l'un des reproches qu'on faisait à Cannes. C'est un reproche qu'on fait généralement.
Il y en a 21, c'est ça.
Il y en a 21. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est le chiffre pour rendre lisible toutes ces industries?
Alors les catégories ne sont pas le fruit finalement des festivals. Ils sont le fruit finalement de la diversité et de l'hétérogénéité de l'industrie de la com. Moi, je me souviens d'un exemple d'un neveu qui me dit: j'ai envie de rentrer dans la com. Ah bon? Mais pour faire quoi? Tu veux faire de la com, des relations publiques, tu veux faire du marketing, tu veux faire de la data, tu veux faire du digital, tu veux faire des réseaux sociaux.
Il y a plein de métiers, quoi.
Il y a plein de métiers. Et malheureusement, on est obligé, au travers des compétitions, de les représenter. Mais ça n'exclut pas que on est aujourd'hui un annonceur, il veut comprendre ces métiers qui arrivent, qui changent, qui bougent. Et quand on parle, on pourrait dire, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. On dirait, tiens, encore un autre métier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de regrouper dans une catégorie qui est le marketing innovation et qui, par essence, ouvre à toutes les champs de possibilités au même titre que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée.
Merci Christian Cap. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Crystal Festival qui se tiendra du 13 au 16 décembre et Thomas Jamet, CEO de IPG Media Brands.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, notre DIRCOM du jour, il s'agit de Stéphane Massé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing et communication de Carac. C'est une mutuelle de retraite et de prévoyance. La Carac, c'est plus de 350 000 adhérents, 380 salariés, plus de 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Quelle est votre cible aujourd'hui et comment est-ce que vous vous adressez à elle?
Alors, notre cible aujourd'hui, elle est grand public par définition. Et on a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années, puisque nous sommes passés d'une mutuelle qui était dédiée à un public tout à fait particulier. Donc on travaillait le monde des anciens combattants.
Oui.
Et on s'est ouvert depuis le milieu des années 90, en fin de compte, à la sphère de proximité. Et aujourd'hui, on est ouvert à tout public, sur toutes les lignes d'activité que sont, vous l'avez cité, la retraite, l'épargne et la prévoyance.
Comment est-ce que vous vous adressez à cette cible? Parce que c'est vrai que la mutuelle est un milieu où finalement il y a quand même pas mal d'offres.
Alors,
est-ce qu'il faut se différencier de façon particulière?
Oui, alors il y a une spécificité aussi au niveau de la mutuelle Carac, c'est qu'elle est spécialisée sur des domaines qui ne sont en dehors de la santé complémentaire. Donc nous ne sommes pas une mutuelle traditionnelle, nous avons cette spécificité. Et donc en termes de spécificité, nous avons à faire valoir notre expertise sur les domaines de la constitution de l'épargne dans le cadre des projets d'événements de vie de la personne, ainsi que dans la constitution des revenus réguliers.
Quel est votre argument phare pour défendre comme ça les couleurs de Carac?
Alors, il y a deux éléments, c'est expertise et proximité. Expertise, c'est notre connaissance de la fiscalité, notre connaissance des obligations réglementaires en matière de succession, et puis bien évidemment aussi la notion de réseau commercial, avec un réseau commercial étendu et une présence au quotidien auprès de nos clients.
Sur quel support est-ce que vous communiquez aujourd'hui?
Trois grands supports en fin de compte. La presse papier, avec une présence très forte auprès de la presse spécialisée, mais aussi au niveau des news magazines. Ça, c'est le premier volet de notre communication. Le deuxième volet, c'est la radio, à la fois grand public, mais aussi sur des radios spécialisées. Et dernier élément de communication, c'est au travers du sponsoring voile qui porte les valeurs traditionnelles de la Mutuelle Carac.
Merci beaucoup Stéphane Massé. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de Carac Mutuelle d'épargne et de retraite et de prévoyance. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CBNews, qui comme chaque semaine a été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.